Voilà, alors l'apôtre Pierre, je voudrais parler aujourd'hui de ce prince des apôtres qui a voulu justement donner une base très, très forte au mystère de la passion et à sa transmission dans le sacrement et encore une fois au plus haut point. Dans celui qui est la source et le sommet, qui est la Sainte Messe. Alors je prendrai un passage de sa première épître. Nous l'avons déjà vu saluer ce peuple de Dieu qui est comme ce peuple aspergé du sang de Jésus. Donc c'est très beau comme image de reprendre un petit peu de... On voit chez cet apôtre qui a connu l'aspersion par le sang des boucs et des béliers, puisqu'il était juif pratiquant, bien sûr, comme tous les apôtres. Et il a connu justement cette liturgie qui remonte à la tradition de Moïse, mosaïque, où on aspergeait abondamment non seulement les objets du culte, l'autel, mais aussi, j'allais dire, les paroissiens, imaginons un petit peu ce que ça pourrait être aujourd'hui, aspergés du sang du Seigneur Jésus. Alors il poursuit dans cette première épître, sachant que ce n'est pas désormais, ce n'est plus par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que nous avons été sauvés, rachetés, de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos pères dans la foi, donc ici Pierre fait allusion au judaïsme, avec beaucoup de respect d'ailleurs, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau, voilà le sang de l'agneau pascal ici qui est auquel fait allusion Pierre, mais d'un agneau sans défaut et sans tache, et qui est le sang précieux du Christ. Voilà. Alors, l'image, l'allégorie que ici Pierre ébauche, c'est celle d'un rachat. Nous avons été rachetés, dit-il, de la vaine manière de vivre. Alors, dans l'idée de Pierre, tout se passe comme si nous étions des captifs et que nous soyons encore dans cette situation et que nous devions en être rachetés. Hein, comme si le sang précieux du Seigneur avait été mis dans une espèce de banque, vous voyez, de banque, ce que j'appellerais la banque eucharistique. Oui. Alors, appliquons, si vous voulez, cette idée de banque, c'est-à-dire de mise en réserve du trésor de notre rédemption, comme si, donc, encore une fois, ce trésor était mis dans une banque à nous destinée pour en être, justement, enrichi et pour payer la dette de notre captivité par une valeur inestimable, le sang précieux versé par le Christ comme un océan d'amour. Vous voyez donc, comme si le Seigneur avait prévu justement qu'après sa passion sur la croix, hein, où tout est accompli, comme dira Jésus dans sa dernière parole sur la croix, donc comme si ce trésor inestimable, cet océan d'amour, était mis en réserve, mis dans cette banque mystérieuse, cette banque qui serait l'Église, hein, on peut dire, et comme si donc dans cette banque, il avait été donné au ministère de ces banquiers, pour continuer l'allégorie, que sont les prêtres, et au plus haut point, bien sûr, les évêques, de reverser sur tous les autels du monde comme autant de guichets hein, encore une fois pour prolonger cette allégorie, pour que nous soyons gratifiés. Ainsi pourrions-nous entrer en possession du trésor de notre salut, acquis une fois pour toutes sur la croix, mais reversé autant de fois que nous le désirons, bien sûr, puisque c'est notre désir libre et partie prenante de notre rédemption, autant de fois que nous le désirions. Et ce désir pourra être satisfait par le ministère des prêtres dans ce qu'on appelle les mystères sacrés, au plus haut point, la Sainte Eucharistie. Alors, pour accéder au coffre, à ce coffre grandiose, à ce coffre qui recèle ni plus ni moins que un océan d'amour, l'océan de l'amour par lequel nous avons été sauvés sur la croix, car encore une fois, ce n'est pas tant par sa passion, par sa souffrance que nous sommes sauvés, rachetés, mais que par son amour. La souffrance étant la preuve de son amour, étant la preuve de sa sensibilité, on peut dire, à notre malheur qu'est le péché. Jésus n'est pas de marbre insensible, il est notre frère, il est notre Dieu, bien sûr, il est notre sauveur, mais il est notre frère, et comme frère, il compatit d'une façon merveilleuse à notre malheur, au malheur qui pourrait nous tenir à l'écart de Dieu, à l'écart de notre vrai bonheur. Voilà, alors pour accéder à ce coffre, un code et une clé seront nécessaires. Alors ce code, c'est l'Église qui en a reçu la garde, et la clé qui ouvre ultimement le couffin de sa miséricorde, selon la belle expression de Saint Bernard. Le couffin, qu'une espèce de vous voyez, ici c'est la réserve affective, qu'est la messe. Eh bien, c'est par cette messe que nous sera donné, redistribué à l'aune de notre désir, à l'aune de notre foi, de notre, en un mot, de notre amour, de notre charité, que nous sera donné tous les fruits salutaires du Saint Sacrifice sanglant et douloureux qui a eu lieu sur une croix à Jérusalem il y a 2000 ans, nous parvenant désormais dans la douceur d'une liturgie. J'aime beaucoup cette expression, je crois, d'avoir déjà plusieurs fois cité, du cardinal Journet, qui voit justement dans la liturgie un acte, non pas de où il nous serait, nous serions invités à nous crucifier, à nous flageller, ou que sais-je encore, mais où, par-dessus tout, ce cardinal qui est en même temps un grand mystique, en même temps qu'un grand théologien, la douceur de l'amour. Bien sûr, la douceur de l'amour. Alors cela ne veut pas dire que, bien au contraire, que nous ne soyons pas invités à participer pour notre part à la passion du Christ, puisque ça fait partie, bien sûr, intégrante de notre participation active au mystère de notre rédemption. Nous ne sommes pas des êtres passifs, nous sommes vraiment, comme dit Jésus, invités à porter notre croix, mais par-dessus tout, dans l'amour. Voilà. C'est l'amour qui nous sauve. Encore une fois, ce n'est pas la douleur du Christ, sinon comme témoignage de son amour. Ce ne sera pas la quantité de nos douleurs qui nous sauveront, qui nous sauvera, mais la douleur en tant que compassion au Christ, la douleur en tant qu'amour participatif du mystère de la passion du Christ. Voilà donc, je terminerai ici avec cette évocation de ce que j'aime bien appeler la banque, Pierre comme gardien de la banque eucharistique. Pierre, gardien de cette banque eucharistique qui nous est redistribuée dans les saints mystères vécus dans la liturgie, dans les différentes liturgies que l'Église a précieusement gardées, conservées, fidèlement transmises, jalousement protégées contre toute altération, parce que il n'y a rien à changer, bien évidemment, il n'y a rien à apporter de notre part, puisque c'est par le sang précieux auquel on ne peut rien ajouter, bien sûr, on ne peut que s'y plonger, on ne peut que s'en être aspergé, en être abreuvé, puisque Jésus dira « Prenez et mangez, prenez et buvez, boire à grands traits le sang du Christ. » C'est pourquoi je me permets aussi de rappeler que dans la liturgie de la première Église, qui est la même que la nôtre, tous les paroissiens, tous les chrétiens communiaient sous les deux espèces, c'est-à-dire sous le... vraiment réaliser l'ordre d'amour du Seigneur, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Il est grandement dommage que nous ne puissions plus le faire. Alors je sais que pour des raisons pratiques, ce n'est pas facile. Les chrétiens d'Orient, à la fois orthodoxes et uniates, c'est-à-dire unis à l'Église catholique, continuent de le faire, pourquoi pas nous? Ils ont trouvé le moyen, par une façon très, très simple, de transmettre avec une petite cuillère d'or quelques gouttes du précieux sang. Voilà, la possibilité est toujours offerte. On le fait en général dans l'Église romaine le jour du Jeudi Saint. Difficile, encore une fois, mais pas impossible. Rien n'est impossible, finalement, si on s'y prend bien, si on s'organise. Mais il serait souhaitable que, peu à peu, l'Église retrouve, l'Église romaine, donc, retrouve cette possibilité de donner à ses enfants de boire le sang précieux du Christ. Vous en voyez toute la pertinence, toute la prégnance, toute la profondeur. Prenez et mangez. Lorsque nous communions au corps du Christ, nous le faisons. Prenez et buvez. Ben non, on le fait à part le prêtre qui... Ce serait d'ailleurs, ceci est très important de rappeler que si par impossible le prêtre ne pouvait pas boire le précieux sang, eh bien, il n'y aurait pas le sacrifice ne serait pas réalisé parfaitement. Je prends l'exemple d'un prêtre qui pourrait avoir un malaise entre après avoir consacré le précieux sang et qui ne pourrait pas y communier, ou par exemple qui pourrait avoir un malaise entre la consécration du corps et la consécration du sang, eh bien le sacrifice n'aurait pas lieu. Et tant qu'il n'y aurait pas au moins le prêtre pour boire le sang du Christ, le sacrifice ne serait pas parfait. Voyez. Donc ça montre à quel point le fait de boire participe du sacrifice eucharistique. Voilà. Ceci est, encore une fois, devant être aussi accompli par chacun des fidèles, par chaque fidèle qui communie, Voilà, donc on pourrait dire que tant que, voilà, alors je ne veux pas pousser le bouchon trop loin parce que bien évidemment pour l'instant l'Église reconnaît tout à fait cette possibilité de communier à la messe en communiant qu'au corps du Christ, je pense qu'il y aurait des grâces supplémentaires. Voilà, ça c'est mon point de vue, ce qui n'engage que moi, et des grâces très, très, je crois, très profondes, si tous les fidèles pouvaient communier au précieux sang. Voilà, chers amis, cette première réflexion, cette première méditation que je fais avec vous sur cette très, très belle allégorie prise chez le prince des apôtres dans sa première épître sur cette banque eucharistique qu'est la Sainte Messe. Je vous invite maintenant à nous mettre à la suite de l'apôtre, d'un apôtre, et non des moindres, Paul, Saint Paul de Tars. On pourrait volontiers lui aussi appeler apôtre de l'Eucharistie. Il en parle, nous savons, dans l'épître, de façon très exhaustive, dans son épître aux Corinthiens. Alors, Paul, l'apôtre des nations, pour lui, c'est tout notre être, corps et âme, qui est impliqué dans notre communion au mystère de l'Eucharistie. À la messe, notre responsabilité est engagée, comme disait si joliment Padre Pio, car c'est là où, comme dit l'Épître aux Romains au chapitre 6, nous mourrons au péché pour vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Bien sûr, c'est ici fait allusion au baptême, mais ce baptême, notre être de baptisé a sans cesse besoin d'y être replongé au travers des deux autres sacrements de l'initiation que sont la confession ou le sacrement de réconciliation qui nous permet à chaque fois de mourir au péché ou de remourir, si on peut dire, si nous avons repêché malheureusement, pour vivre de la vie de Dieu reçue au baptême. Et le sommet des sacrements d'initiation, le sommet qui est la Sainte Eucharistie, où là, nous mourons avec le Christ en croix et pour revivre de sa vie de ressuscité. La participation à l'Eucharistie suppose donc une initiation. La séquence traditionnelle à laquelle je viens de faire allusion, les sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, et puis bien sûr avec la possibilité d'être virginisé, on peut dire, avec le sacrement de la réconciliation, que les pères de l'Église appelaient comme un second baptême, et une planche, la seconde planche de salut. Alors voilà ce passage de l'Épître aux Corinthiens. « Chaque fois, nous dit saint Paul, que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, » on voit bien que dans les Corinthiens communiaient, mangeaient et buvaient la coupe du salut, « vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Voilà. Alors, l'apôtre Paul, ici, nous apparaît aussi dans toute sa haute stature de protecteur, si on peut dire, du trésor eucharistique. Vous voyez, Il ne suffit pas de manger, de boire pour saint Paul, mais il s'agit de manger et de boire de façon digne. Car notre responsabilité est totalement engagée justement dans le fait pour nous de célébrer la Sainte Messe et d'y communier, puisque par notre communion, que ce soit le prêtre ou chaque fidèle, nous sommes totalement engagés dans notre fidélité, dans notre espérance des biens futurs que les dons eucharistiques sont la promesse, et au plus haut point dans l'amour de ce Jésus qui se donne à nous. C'est un amour pour amour auquel nous sommes conviés. Voilà donc ce que Saint Paul nous offre comme perspective dans notre participation à la Sainte Messe. Alors est-ce qu'on pourrait parler d'un rigorisme paulinien comme on l'a parfois entendu ? Parce que ces paroles sont assez fortes. Hein. Quiconque mange ou boit indignement aura à répondre. Non, je ne pense pas qu'il s'agisse de rigorisme, car il s'agit avant tout pour Paul d'une exigence d'amour à l'égard d'un Dieu jaloux auquel nous aurions été comme fiancés mystiquement, nous dit-il. Hein, souvenons-nous, tout dans la seconde épître aux Corinthiens, saint Paul nous présente un peu comme si nous étions les fiancés ou la fiancée, puisque vous savez que l'Église gère le rôle symbolique de la femme dans ce mariage, ces épousailles, et le Christ, dont le Christ en serait l'époux. J'éprouve en effet, nous dit saint Paul, à votre égard, une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Voyez, donc, c'est donc bien d'un amour unique qu'il s'agit dans le mystère eucharistique, qui, vous le savez, est présenté dans l'Apocalypse comme le festin des noces de l'agneau. Comme le festin des noces de l'agneau. Donc l'Eucharistie est ce festin au cours duquel nous renouvelons à chaque fois notre union, nous redisons oui notre époux qui est Jésus, dans cette union mystique, avec notre unique époux qui est le Christ Jésus. Donc rien de rigorisme dans cette exigence d'amour de saint Paul, mais il y a au contraire une cohérence profonde. Là, nous sommes vraiment dans la réalité même que nous célébrons, dans un acte d'amour. Un acte d'un amour profond, on peut dire, du sommet de l'amour, puisque c'est l'amour entre Dieu et moi, entre Dieu et chacun et chacune d'entre nous. Donc on est vraiment... Saint Paul nous met directement en vision la nature propre de la Sainte Messe, ce à quoi nous sommes invités à communier, celui avec lequel nous communions, celui à qui nous redisons « Oui, oui Seigneur, je t'aime », comme Jésus invitera d'ailleurs son prêtre, Pierre, lors de sa résurrection sur les bords du lac de Tibériade, en lui demandant par trois fois « Pierre, m'aimes-tu ?» Vous voyez, donc, je pense qu'à la messe, nous pouvons entendre cette même parole et de pouvoir lui répondre « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime de tout mon cœur. » Voilà, je nous invite, vous et moi, à prendre un petit moment de recueillement pour pouvoir justement dire au Seigneur, lui redire que nous l'aimons. Voilà, donc nous avons contemplé avec saint Paul la nature profonde du mystère eucharistique et englobant, si j'ose dire, tous les autres sacrements et tout le mystère de l'Église, hein, puisque vous vous souvenez que la dernière encyclique de saint Jean-Paul II s'intitulait l'Église de l'Eucharistie. Hein, l'Église de l'Eucharistie. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. On peut dire que dans l'Eucharistie, il y a tout. Hein. J'aime beaucoup citer cette parole de Benoît Trancurel, de la voyante de Notre-Dame du Lot, de Notre-Dame-du-Lot, ce sanctuaire marial dans le diocèse de Gap, qui disait « À la messe, j'ai tout ce qu'il me faut. À la messe, j'ai tout ce dont j'ai besoin. » Donc nous avons contemplé le mystère eucharistique comme un mystère de sponsal, de mariage. Saint Paul nous dit que nous sommes, qui nous a fiancés, alors comme apôtre, bien sûr, il a avec les autres apôtres, il a reçu cette grâce de fonder l'Église du Christ, de nous présenter comme des fiancée, c'est magnifique. Nous sommes la fiancée de Jésus. Voilà, nous avons un époux dans le ciel en tant que membre de l'Église. Alors, je voudrais aussi profiter de cette belle contemplation pour voir avec vous comment se trouvent là clairement situées aussi les racines théologiques unissant la communion eucharistique au sacrement du mariage. Effectivement, les sacrements, et en particulier le sacrement de mariage, ne seraient pas comme quelque chose, une espèce de tiroir complètement étanche. Vous voyez, les sept sacrements seraient comme chacun dans son domaine et totalement distincts. Oui, ils sont distincts, ils apportent une grâce particulière chacun, mais tous convergent bien sûr vers le sacrement des sacrements, le très saint sacrement qu'est l'Eucharistie. Alors, justement, c'est la fameuse question douloureuse de l'impossibilité pour des époux qui se sont mariés d'une certaine façon avec le Christ dans le sacrement de mariage et qui, de pouvoir se remarier, voilà, religieusement, bien sûr, en cas de séparation. On voit là si vraiment, et c'est le cas, le mystère de l'Eucharistie est un mystère qui nous unit dans une dimension sponsale, c'est-à-dire que la messe, c'est bien les noces de l'agneau, auxquelles des époux participent, comme à Cana, comme les époux de Cana, lorsqu'ils reçoivent le sacrement de mariage. Donc on peut dire que le sacrement de mariage que les époux vivent, eh bien, c'est leur cana eucharistique, hein, pour prendre une expression qui rassemble tout. Voilà, c'est leur façon, en tant qu'hommes et femmes chrétiens, de vivre l'amour au banquet, dans le banquet eucharistique. C'est pourquoi d'ailleurs il est anormal, mais on est bien, j'ai dit, concédé parfois, et trop souvent malheureusement, de célébrer un mariage sans qu'il y ait la messe. Il y a quelque chose d'antinomique dans le fait de célébrer un sacrement de mariage par une simple bénédiction. Alors bien sûr, le mariage est parfaitement valide et plein et entier, hein, il ne s'agit pas de dire qu'il s'agit d'un mariage au rabais, pas du tout. Mais sur le plan de la volonté de Dieu, hein, faut aller jusque-là, eh bien, le sacrement de mariage a comme destination d'être célébré au cœur du mystère eucharistique. Il en est une composante, il en est non des moindres. Se dit en passant, pour les gens qui ne sont pas mariés, comme les prêtres par exemple, eh bien, le fait que le sacrement de mariage soit partie prenante du sacrement de l'Eucharistie, vous voyez, ça montre à quel point, ça doit rappeler à quel point, eh bien, les prêtres ne doivent pas être frustrés, pardonnez-moi de prendre cette expression un petit peu séculière, mais ne doivent pas être des frustrés du cœur, des frustrés de l'affection, des frustrés de l'amour, car justement, ils sont pour leur part, eux aussi, conviés aux noces, au festin de leurs noces à eux, que sont les noces avec le Christ, hein, dont ils sont les fiancés. Voilà, ceci est très important, vous voyez, parce que à l'époque, on a beaucoup parlé du mariage des prêtres, à l'époque où on a parlé de, voilà, après tous les drames ici ou là, on a dit, ben, bon, allez, n'ayons pas peur des mots, tous ces pédophilies, etc., en disant, ben, si les prêtres étaient un petit peu plus affectivement équilibrés, n'en serait pas arrivé à cela, etc. Bon, je veux bien que ce ne soit pas faux sur le plan psychanalytique, psychologique, ou que sais-je encore, mais pas sur le plan théologique, vous voyez. On ne peut pas justifier de ces drames, voyez, pour changer la discipline de l'Église, en tout cas la discipline de l'Église romaine, depuis 2000 ans, sous prétexte de la faillite de certains de ses membres. On ne peut pas toucher la doctrine fondamentale, cette discipline, bon, si on ne veut pas appeler ça doctrine, je sais bien que les prêtres de l'Église uniate catholique d'Orient, par exemple, des Libanais peuvent se marier, donc ça prouve que ce n'est pas antinomique, mais il n'en reste pas moins que la discipline de l'Église romaine est là et qu'elle exprime une réalité très profonde, et j'espère le plaisir un jour de pouvoir présenter en profondeur le lien qu'il y a historiquement et théologiquement entre le célibat pour le royaume, concrètement le sacerdoce. Et j'espère justement vous montrer à quel point cette réalité est très, très profonde dans l'Église. Alors je termine en disant justement qu'il n'est pas justifié de émettre des doutes et proposer un changement de discipline par rapport au célibat des prêtres parce que il y a une réalité sponsale qui est présente dans la vie des prêtres et qui s'exprime au plus haut point dans le sacrement, dans la célébration des saints mystères, dont ils doivent vivre en plénitude, pas simplement une heure dans la journée, mais j'allais dire tout le temps. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs, encore une fois, au Padre Pio, s'il ne tenait qu'à moi, jamais je ne quitterai l'autel du sacrifice, l'autel de la messe. Vous voyez, c'est quelque chose de très très profond chez ce grand saint, ce grand mystique, ce grand amoureux de la Sainte Eucharistie. S'il ne tenait qu'à moi, jamais je ne quitterai l'autel du Saint-Sacrifice. Vous voyez ? Alors, je voudrais faire une petite annonce sur un sujet que j'aimerais, dans la suite des méditations que je me propose de faire avec vous, sur ce que Claire Ferchaud, donc cette mystique vendéenne, qui a quitté cette terre en 1972, vraisemblablement, je le dis car l'Église ne s'est pas engagée encore totalement, en tout cas l'archevêché de Poitiers, sur lequel elle vivait, sur le caractère vraiment divin de ces révélations, ou de ces révélations privées, hein, sur le thème de la messe perpétuelle. Voilà, puisque c'est la teneur essentielle de cette révélation privée. Messe perpétuelle. Vous voyez, alors, Claire Ferchaud, grande mystique du Saint-Sacrifice de la Messe, a reçu cette grâce particulière de vivre en union avec le Christ eucharistique. J'allais dire pas simplement le Christ sur la croix, bien sûr c'est le même, hein, mais par rapport à la messe. Quelque chose de très original, si on peut dire, dans cette mystique. Chaque instant était pour elle, chaque minute, disait-elle même, elle vivait une messe, en chantant l'introïte mystiquement dans son cœur, dans son corps, l'introïte, le kyrialé, la demande de pardon, la gloire, le gloria d'être pardonné, la dimension de la parole de Dieu, puis elle arrivait avec une participation plus intense à un amour crucifié, où elle arrivait à l'offertoire, où elle s'offrait avec le Christ, où elle était déposée avec le Christ sur la patène, et bien sûr, point culminant de la consécration et de sa communion au corps et au sang sacré du Seigneur. Vous voyez ? Donc, il y a dans cette révélation privée une invitation pour nous, non pas simplement, vous voyez, à célébrer de façon comme en bégaiement comme une messe plusieurs fois. C'est pas simplement le fait de répéter plusieurs fois une messe qui est en jeu ici. Voilà, c'est pas magique la messe, mais c'est pour que nous soyons invités à participer au mystère eucharistique d'une façon perpétuelle. D'une façon perpétuelle. Que cette messe, vous voyez, épouse, que cette messe qui vient vers nous, parce que c'est toujours Dieu qui vient vers nous, c'est toujours Dieu qui se propose, non pas pour nous faire du mal, non pas encore moins pour nous, comment dirais-je, pour nous lasser, hein, comme si la messe répétée perpétuellement devrait entraîner de notre côté comme une lassitude. Ben non, l'amour ne peut pas créer de lassitude. Le fiancé ne se lasse pas de contempler le visage de sa bien-aimée. Un enfant ne se lasse pas de dévorer d'amour des yeux son papa, le beau visage de son papa, de sa maman. Mais c'est de ça dont il est question dans la messe. Donc cette messe, c'est-à-dire cet amour culminant, s'approche de nous pour y occuper tout l'espace de nos journées, sans qu'il soit question de lassitude, mais bien au contraire, comme suscitant notre désir. Voilà. Eh bien, chers amis, je voudrais vous laisser sur cette image, cette révélation privée, encore une fois, qui petit à petit prendra son essor. Alors, je me permets de vous dire que j'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle, alors, pardonnez-moi, je ne veux pas faire de publicité, mais si vous êtes intéressé par cette chose de la messe perpétuelle, eh bien, j'ai commis un livre qui s'appelle « La messe perpétuelle, une apocalypse de l'amour » et qui est publié chez Teki. Voilà. Bon. Mais je vous promets de vous en parler ici, sur cette antenne, d'une façon plus exhaustive à un autre moment. Voilà. Eh bien, venons boire à la coupe du Seigneur, venons boire à la coupe de son amour, venons nous nourrir de son corps, nous abreuver de son sang, et ceci sans lassitude.